Europe 1, il est midi.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, un ballon espion chinois qui survole les États-Unis. Pourquoi faire ? Que répond Pékin ? Les dernières informations avec Thibaut Hue dès le début d'Europe Midi. Et puis on sera connecté avec le général Bruno Clermont à midi 20. Les annonces du ministre de la Santé François Braun ce matin sur Europe 1 dans la matinale de Dimitri Pavlenko. 1 million de flacons d'amoxicilline seront bientôt livrés dans les pharmacies. Céline Géraud avec nous. Et puis on parlera également du tarif des consultations médicales. La Sécurité sociale propose une augmentation d'1,50€. Les médecins sont furieux, ils trouvent évidemment que ce n'est pas assez. Quel serait le bon prix, tiens, selon vous ? Vous appelez le 3921 et on va en parler dans Europe Midi. La flamme olympique débutera son parcours en France, à Marseille pour les Jeux olympiques de 2024. On ira à Marseille retrouver Stéphane Burgat. Les vendredis thématiques sur Europe 1. Aujourd'hui, la France des Lumières dans la pénombre. 16% des jeunes croient que la Terre est plate. Comment en est-on arrivé là ? Comment en est-on arrivé à ce fiasco ? On sera avec Bruno Macquart, qui est président du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences. Il sera avec nous à 12h45. La tendance météo, c'est important aussi, Anissa Haddadi, avec encore une différence nord-sud bien nette, hein ?
Oui, cette différence nord-sud, elle sera encore bien marquée aujourd'hui, comme tout au long de cette semaine, avec au nord de la ligne Bordeaux-Chambéry, beaucoup de nuages, quelques belles éclaircies quand même sur la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Au sud, de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes, en passant par le pourtour méditerranéen et la Corse, et du grand soleil, avec toujours du vent, Mistral et Tramontane, dans une douceur très agréable.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. C'est à peine croyable, un ballon espion chinois au-dessus des États-Unis, surveillant plusieurs sites sensibles. Thibaut Hue avec nous. Bonjour Thibaut.
Bonjour Romain.
Thibaut, l'objet a été photographié dans le ciel du Montana, dans le Grand Ouest américain. À quoi ressemble ce ballon ?
Eh bien, il s'agit d'un immense ballon blanc avec un diamètre équivalent à la longueur de 3 bus et des antennes satellites noires. Il dérive à très haute altitude, bien au-dessus du trafic aérien. Et pourtant, il a été très vite repéré dans le ciel par des habitants du Montana.
Je suis dans mon allée et en ce moment, il y a cette chose dans le ciel. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et ce n'est pas la Lune, puisque la Lune est à ma droite, je peux la voir.
Selon un haut responsable américain de la Défense, il ne fait aucun doute, ce mystérieux ballon est chinois et le survol du Montana, a-t-il précisé, ne serait pas un hasard. En effet, cet État abrite des installations militaires et surtout nucléaires. Le Pentagone a donc songé à abattre le ballon, opération finalement avortée à cause des risques de chute de débris. Pékin a rapidement réagi. La ministre des Affaires étrangères, Mao Ning, a assuré ce matin que des vérifications étaient en cours.
La Chine respecte toujours strictement le droit international. Quant à la question concernant le ballon, nous nous efforçons toujours de comprendre la situation et nous espérons que les deux parties la traiteront avec calme et prudence.
Des tensions entre Washington et Pékin à seulement 2 jours d'une visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Chine.
Thibaut Hue, merci beaucoup. Thibaut, notez que le Canada annonce également surveiller, je cite, un deuxième incident potentiel, à comprendre un éventuel autre ballon espion. On sera avec le général Clermont à midi 20. Dans l'actualité internationale également, ce sommet Union européenne-Ukraine à Kiev aujourd'hui. L'occasion d'aborder l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais aussi les sanctions européennes contre la Russie. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a assuré travailler à un 10e paquet de sanctions pour le 24 février, date anniversaire du début du conflit. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a de son côté promis de soutenir l'Ukraine dans son ambition, je cite, d'adhérer à l'Union européenne. Alors que la France subit depuis des semaines une pénurie de médicaments, notamment des pénuries d'antibiotiques amoxicilline. Le ministre de la Santé, François Braun, était ce matin sur Europe 1, interrogé par Dimitri Pavlenko dans la matinale. Il a promis le retour à une situation normale. Céline Géraud avec nous, chef du service Société d'Europe 1. Bonjour Céline.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
François Braun, le ministre de la Santé, entend désormais prévenir les effets de la pénurie, hein ?
Oui, et nous l'annoncions dès hier soir en exclusivité sur Europe 1. 1 million de flacons de cet antibiotique pédiatrique très demandé sur notre territoire sera livré dans les pharmacies dans les 15 prochains jours grâce à un effort considérable de l'industrie pharmaceutique française, comme le précise le ministre de la Santé.
Plus jamais ça. Plus jamais ça, cette pénurie de médicaments essentiels pendant une période hivernale où on sait qu'on en a besoin. On va revenir dans les deux semaines qui viennent à un mois de stock supplémentaire en amoxicilline. C'est le travail fait par les industriels qui ont travaillé jour et nuit, qui ont activé toute leur chaîne de production sur les principes d'amoxicilline qui nous manquaient, des dosages qui nous manquaient.
Autre annonce, l'Agence nationale du médicament en lien avec la Direction générale de la Santé va établir un plan de gestion des épidémies hivernales. Chaque hiver, le même triptyque impitoyable, grippe, grippe, bronchiolite, Covid, ça suffit.
Les épisodes d'infection, c'est tous les ans, donc maintenant on anticipe sur l'hiver prochain, quitte à faire des stocks préalables. L'hiver ne doit pas être une crise, l'hiver arrive tous les ans, ce n'est pas une crise, c'est de la prévention.
Enfin, François Braun a confirmé la mise en place d'un plan blanc médicaments en relocalisant en France la production de certains médicaments stratégiques qui seront listés d'ici la fin du mois de mai pour éviter de nouvelles pénuries.
Céline Géraud, merci beaucoup Céline. Il a parlé également du tarif de la consultation. La Sécu propose 1,50€ en plus.
Voilà.
Bon.
C'est un effort, mais en échange, il demande des contreparties. Donc le bras de fer continue.
Le bras de fer continue. On va en parler, évidemment, à midi et demi avec Agnès Gianotti. Elle est présidente de MG France. C'est le premier syndicat des médecins généralistes. Les médecins qui espéraient un petit peu plus qu'1,50€ seulement d'augmentation. Vous appelez le 3921. Vous nous dites ce que vous en pensez. Vous nous dites, tiens, quel est, selon vous, le bon prix pour une consultation médicale ? Invité de l'émission L'Événement sur France 2 hier soir pour parler de la réforme des retraites, Elisabeth Borne a assuré, sans plus de précision, qu'il faudra s'assurer que certains plans de départ volontaire ou certaines ruptures conventionnelles ne soient pas plus avantageux pour les entreprises que de garder ces seniors, le travail des seniors. On en parle beaucoup dans le cadre de la réforme des retraites. Elisabeth Borne s'est dite favorable également à un élargissement de l'index senior aux moyennes entreprises à partir de 50 salariés. Et elle n'a pas dit non à de possibles sanctions.
Cet index, il va permettre de mettre en évidence, de montrer les entreprises qui ont un bon comportement à l'égard des seniors et celles qui n'ont pas un bon comportement.
Et vous pensez que ça va suffire ?
Alors je pense qu'on doit aller sans doute plus loin et on a des députés de la majorité qui le proposent. Les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard des seniors, si elles n'ont pas un plan d'action, elles doivent mettre en place un plan d'action qui évidemment sera négocié dans l'entreprise. Si elles ne le font pas ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions.
Voilà, Elisabeth Borne, hier soir sur France 2.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est midi 7, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. On s'intéresse aujourd'hui au complotisme. La France des Lumières dans la pénombre, ces théories farfelues et quelquefois dangereuses agrègent une importante communauté sur Internet. Contre-vérités et théories scientifiques fumeuses sont partagées sur les réseaux sociaux et selon un sondage IFOP, un jeune sur six est persuadé que la Terre est plate. Nina Droff avec nous. Bonjour Nina.
Bonjour Romain.
Il y a de quoi sursauter en entendant cela. Et pourtant, ça fait fureur sur Internet.
Oui, en cherchant un peu, on tombe très facilement sur les contenus de ces platistes, comme ils se font appeler. Des vidéos soi-disant argumentées, expliquant avec des calculs, des graphiques, pourquoi la Terre ne peut pas être ronde. Sur sa chaîne YouTube Info Très Vrai, Marc Dan relaie de nombreuses preuves de sa théorie, comme dans cette vidéo visionnée par des milliers de personnes.
Si la Terre était vraiment une sphère, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'eau se comporte de cette façon.
Et ça n'est pas tout. Toujours selon eux, la gravité n'existe pas, la Terre est un disque plat et les océans sont retenus par un mur de glace qui entoure ce disque. Une théorie même relayée par des stars comme le joueur de NBA Kyrie Irving qui comptabilise 18 millions d'abonnés sur Instagram.
J'ai fait mes propres recherches. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de photos qui prouvent que la Terre est ronde, donc j'en arrive à croire que c'est une conspiration.
Il existe même une convention des platistes qui se tient tous les ans à Dallas, aux États-Unis.
C'est à pleurer, mais pleurer de rire ou pleurer tout court. Merci beaucoup Nina Droff. On va en parler à 12h45 avec un vrai scientifique, pas un amateur, j'allais dire. Bruno Macquart, président d'Universcience, regroupant le Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il est président d'Universcience. Il sera avec nous à 12h45. Merci beaucoup, Nina. Symbole de l'érosion du littoral, le chantier de destruction de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer commence aujourd'hui. Il y a 50 ans, la mer était à 200 mètres de cet immeuble. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'à une vingtaine de mètres de ce bâtiment construit en 1967. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Vous êtes donc à Soulac. Le Signal va, l'immeuble, Le Signal, va vivre ses dernières semaines. Hein.
Oui, dépouillé de ses fenêtres, vide, désamianté, nu, une énorme pelle de chantier à côté, prête à l'action, Le Signal va bel et bien disparaître. Habitant à Soulac, Didier est venu assister au lancement de cette destruction.
Il est seul là, sur le bord de plage, il n'a pas lieu d'être là. Quoi. Oui, c'est une verrue. Ça va nous rendre un coin vierge, avec des dunes.
Moment douloureux pour Daniel, qui possédait l'un des 78 appartements et qui estime que l'on n'aurait surtout pas dû autoriser la construction de cet immeuble.
Depuis qu'on a été évacué, tout ce qu'on a pu lire, c'était Le Signal, l'emblème du réchauffement climatique. Non, c'est l'erreur humaine et qui ne devrait pas se reproduire. Parce que quand on donne des autorisations de construire, on s'inquiète de l'historique. Moi, j'ai vraiment la rage. On a eu 70% de la valeur des appartements évaluée en 2012. Mais bon, il fallait tourner la page. Hein. L'appartement, il faisait 70 mètres carrés et on était indemnisé 129 000 euros. Alors si vous me trouvez un appartement avec vue sur mer, 70 mètres carrés avec 129 000 euros, je l'achète. Hein.
Symbole de l'érosion côtière, Le Signal sera complètement rasé dans les 3 semaines à venir, en principe.
Stéphane Place à Soulac. Merci beaucoup Stéphane. J-539 avant les JO de Paris 2024. La flamme olympique passera dans toute la France avant d'embraser la vasque olympique à Paris. La ville de Marseille était candidate pour accueillir la flamme en France à son arrivée de Grèce. Bonjour Stéphane Burgat.
Bonjour à tous.
Correspondant à Marseille pour Europe 1. Marseille où Tony Estanguet a officialisé ce matin l'arrivée de la flamme olympique dans la ville. C'est à Marseille que la flamme débutera son parcours en France. Chez vous Stéphane.
Exactement, même si elle sera tout d'abord allumée dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce, elle va naviguer ensuite à bord du majestueux trois-mâts, le Bélem, escorté par une armada de navires. Et donc, 2600 ans plus tard, des Grecs débarqueront à nouveau dans la rade marseillaise. Voilà pour le symbole et le choix de Marseille dans tout ça. Eh bien, c'est une évidence pour le président du comité d'organisation de ces Jeux, Tony Estanguet.
Je peux vous dire que ces images-là, elles nous font rêver, on se projette déjà. C'est à Marseille que tout commence, vous pouvez en être fiers, à jamais les premiers. Marseille est tombée comme une évidence, parce que Marseille, c'est la passion du sport. Marseille, c'est cette ville populaire qu'on adore tous, avec sa richesse. Porter la flamme, c'est perpétuer son histoire.
Et le triple médaillé d'or en canoë, on s'en souvient, qui insiste sur l'importance du relais de la flamme avec ces images qui sont entrées dans l'histoire comme l'émouvant relais de Mohamed Ali en 1996. Et pour les 100 ans donc du retour de ces Jeux en France, la flamme sillonnera le pays donc entre mai et juin et juillet 2024 depuis Marseille qui, on le rappelle, accueillera 10 compétitions de voile et 10 matchs de foot de ces Jeux olympiques.
Quel événement, ça sera magnifique ouais. Stéphane. Hein
on a hâte.
On a hâte, on a hâte. Merci beaucoup Stéphane Burgat, en direct de Marseille. Le premier à avoir fait gagner Renault en F1 en 1979 grâce au moteur turbo-compressé. On a appris hier soir le décès du pilote ingénieur Jean-Pierre Jabouille à l'âge de 80 ans. D'ailleurs, si vous voulez vous offrir un morceau de l'histoire de la course automobile, eh bien... J'ai une question cet après-midi. Combien seriez-vous prêt à dépenser pour une Ferrari 250 LM de 1963 ? Pas n'importe quelle Ferrari. Hein. La Ferrari 250 LM de 1963. Si vous appartenez comme nous au commun des mortels, sûrement pas assez. Vous n'êtes pas prêt à dépenser assez d'argent parce que cette voiture, mise aux enchères cet après-midi au salon Rétro Mobile à Paris, est estimé, écoutez bien, à 25 millions d'euros. Ah oui, il faut avoir un sacré livret A, hein. Un livret A bien rempli. Le reportage pour Europe 1 d'Axel May, écoutez.
Cette berlinette de sport est bien sûr rouge, comme toute Ferrari qui se respecte, mais une bande blanche décore le toit ainsi que les capots avant et arrière. La 250 LM, LM comme Le Mans, n'a été conçue qu'à 32 exemplaires dans le monde et c'est une 250 qui a apporté à Ferrari sa dernière victoire aux 24 heures du Mans en 1965. Le modèle proposé aux enchères a comme particularité de posséder encore quasiment toutes ses pièces d'origine. Pierre Novikov est directeur adjoint de la maison de vente Arcurial Motorcars.
Ça fait 50 ans qu'une telle voiture n'a pas été présentée lors d'une vente aux enchères en France. Donc cette voiture, c'est la première voiture à moteur arrière produite par Ferrari. On parle d'un prix autour de 25 millions d'euros. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais par rapport à l'importance historique de la voiture, c'est un prix qui est assez raisonnable.
Le futur acheteur pourra alors faire vrombir le V12 3 litres de cette Ferrari 250 LM, mais à ce prix-là, pas certain qu'elle sorte beaucoup du garage.
Effectivement, 25 millions d'euros la voiture, on fait attention. Ferrari 250 LM de 1963. Tiens, cette information qui tombe à l'instant au sujet du tournoi Destination, première sélection avec le 15 de France pour l'ailier Ethan Dumortier. Voilà, on l'apprend à l'instant. La météo, mais avant cela, la bourse avec Didier Hameau. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Didier Hameau de boursier.com. Quelle est la tendance à Paris ?
Ça baisse un petit peu. Ah. Allez, moins 0,3%, 7145 points sur le CAC 40. Ça reste haut. Hein. Après un début d'année en progression de 10%, on souffle donc, après le relèvement des taux des banques centrales américaines et européennes, comme prévu, hein, c'était mercredi et jeudi, les marchés soufflent un petit peu pour terminer la semaine en attendant la publication des chiffres de l'emploi. Ce sera aux États-Unis cet après-midi. Parmi les valeurs du jour, Sanofi recule de 3%, 84 euros après des prévisions financières 2023 moins fermes que prévues. Ça baisse un petit peu partout en Europe. C'est pas spectaculaire. Francfort, moins 0,6. Bruxelles, moins 0,5. Madrid, moins 0,2. Le CAC 40 en baisse de 0,3%. 7145 points.
Didier Hameau de boursier.com. Merci beaucoup Didier. La météo à présent avec Anissa Haddadi. Avec vous Anissa, des nuages au nord et à l'est cet après-midi.
Oui, c'est vrai que cet après-midi, le ciel se couvre de plus en plus sur les Hauts-de-France, la région parisienne et le Grand Est. Hein, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, c'est très gris avec quelques petites averses locales, de la neige à 1100 mètres sur les Vosges. Sur la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, le Nord de l'Auvergne, le Poitou-Charentes, la Vendée, on a quelques éclaircies qui se développent cet après-midi. Vous aurez la chance de voir le soleil. Puis alors sur la moitié sud, hein, rien à dire. Hein, c'est un soleil radieux dans un ciel quasiment sans nuages avec toujours du Mistral et de la Tramontane au bord de la Méditerranée. Les températures, 6 degrés à Saint-Etienne, 7 au Puy-en-Velay et à Belfort, 10 degrés cet après-midi à Reims, au Havre et à Auxerre, 11 à Lorient et Lille, 12 degrés pour Paris et Nantes, 14 à Nice et 18 à Perpignan.
Merci Anissa Haddadi. Vous le savez, le vendredi, je vous donne des conseils de podcasts Europe 1, une sélection de podcasts Europe 1 pour votre week-end. Alors, l'équipe d'Europe Midi vous a sélectionné deux podcasts pour ce week-end. Le premier, Europe 1 Studio au cœur de l'histoire sur Tchernobyl. En 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose, causant le plus grand des accidents technologiques de l'histoire. Dans cette mini-série inédite, en 4 épisodes du podcast au cœur de l'histoire, l'historienne Virginie Giraud raconte les origines de ce drame qui a marqué l'histoire à jamais. Premier podcast. Deuxième podcast, On de la raconte. John Wayne Gacy, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. Dans les années 70, dans l'Illinois, cet homme, John Wayne Gacy, a torturé, violé et tué 33 jeunes hommes. Il était surnommé le clown tueur parce qu'il avait l'habitude de se déguiser en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Ondelat raconte John Wayne Gacy. C'est à retrouver sur Europe1.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute. Restez bien avec nous dans un instant dans Europe Midi. On va parler de ce ballon espion chinois au-dessus des États-Unis. On sera avec le général Bruno Clermont, général de corps aérien. Je vais lui demander ce qu'on sait sur ce type de ballon, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que l'armée américaine ne lui a pas tiré dessus. Beaucoup de questions et les réponses du général dans un instant. A tout de suite.
Europe Midi. Romain des Arbres.
Il est midi 20. Un ballon espion chinois au-dessus des États-Unis, suspecté de collecte de renseignements. On est avec vous, général Bruno Clermont. Bonjour mon général.
Bonjour Romain.
Merci d'être avec nous, général de corps aérien. On a besoin de votre expertise, mon général. Qu'est-ce qu'on sait de ce type de ballon ? Quand on parle d'un ballon espion, qu'est-ce que c'est exactement ?
D'abord, c'est une information qui a été fournie par le Pentagone, ce qui est assez rare parce qu'en général, il reste plutôt discret sur ces affaires-là. Visiblement, ce n'est pas la première fois qu'il y a un survol des États-Unis par ce type d'engin. La différence, c'est que ce survol est très prolongé et donc il a été identifié par un certain nombre de spotters à partir des États-Unis. Donc effectivement, il vaut mieux donner les explications au public de quoi il s'agit.
Identifié par les spotters, je vous coupe un spotter, c'est des photographes amateurs, quoi.
Hein, ce sont en quelque sorte des passionnés d'espace qui ont des télescopes et qui regardent tout ce qui se passe dans le ciel. Donc effectivement, on a en plus sur Internet des images de ce ballon dont on voit que le Pentagone a reconnu qu'il faisait à peu près le diamètre de 3 autobus, c'est-à-dire entre 30 et 50 mètres, et qui vraisemblablement évolue dans une zone très particulière, qui est la zone au-dessus du vol des avions commerciaux et des avions militaires, c'est-à-dire au-dessus de 15 et de 20 km. Et c'est dans cette zone, effectivement, il y a très peu d'activité. Et c'est réservé à des engins très spéciaux comme ces ballons, dont les caractéristiques techniques permettent d'évoluer au-dessus de 20 km, entre 20 et 50 km. La particularité, c'est que c'est rare et que celui-ci, non seulement a été identifié, mais il est suivi d'un deuxième qui a été annoncé par le Canada, puisque ces engins, ils partent de Chine, ils traversent la Russie, ils passent par l'Arctique. Ensuite, ils passent au-dessus de l'Alaska, ils traversent le Canada et ils vont sur les États-Unis. Donc la particularité de celui-ci, c'est que il reste longtemps. En fait, ça fait sans doute plusieurs jours qu'il est au-dessus des États-Unis et plusieurs jours qu'il est guidé, il est piloté à distance et qu'il surveille, il fait une trajectoire qui monte, qu'il survole des sites sensibles des États-Unis qui sont essentiellement des installations militaires américaines.
Oui. Alors, à quoi ça sert, justement? Voilà, donc ça survole des installations militaires américaines, mais... Ça aspire des données. Qu'est-ce que ça fait? Ça photographie?
D'un point de vue technique, c'est assez paradoxal parce que ça va faire de la surveillance, de la reconnaissance. Oui. Ça peut prendre des photographies, effectivement, de sites sensibles, mais rien de ce que puissent faire également des satellites. Et vous savez que les satellites, les Chinois, les Russes, etc., on a des dizaines qui tournent autour de la Terre et qui photographient à peu près tout ce qui bouge. Donc on est plutôt dans une espèce de démonstration entre la démonstration de capacité des Chinois, parce que cette capacité, pas beaucoup de pays ne la mettent en œuvre, et puis également une forme de provocation qui est un signal politique adressé aux Américains qui leur dit, écoutez, nous, on est capable de survoler votre espace aérien. Nous aussi, on a des capacités de nocivité aux militaires importantes.
On va parler du contexte géopolitique, mais déjà, vous-même, vous êtes pilote de chasse. Si un tel ballon survolait la France, est-ce que l'aviation française de chasse, l'armée, irait lui tirer dessus et pourquoi les Américains ne lui tirent pas dessus?
Alors, les Américains ont les capacités, comme les Français ont les capacités d'abattre ce type de ballon. On peut décoller un Rafale qui sont en alerte en permanence au sud de la France, qui décolle en quelques minutes. Il va monter à 15 km d'altitude, qui est le plafond des avions de chasse occidentaux, parce qu'au-dessus, c'est compliqué, il n'y a plus beaucoup d'air, donc les avions ne peuvent plus voler. Et là, à partir de cette altitude, vous tirez un missile qui, lui, va pouvoir rejoindre l'objectif, même si l'objectif est à 10 ou 15 km au-dessus de lui. Donc, on peut effectivement neutraliser ce type de ballon.
Ça, on sait faire, oui.
On sait faire, mais en fait, le problème ne s'est jamais posé parce que cette situation est totalement exceptionnelle. Mmh. Il y a vraiment dans la tranche entre 20 km et 100 km, qui est la tranche dans laquelle on a les engins spatiaux, dans lequel il y a aussi des avions qui volent dès à présent. Il y a des avions spatiaux qui volent au-dessus de 100 km. Ils ne sont pas nombreux, mais les Américains en mettent en œuvre. Là, écoutez, il n'y a pas véritablement de réglementation parce qu'il n'y a pas vraiment de précédent. On n'a pas eu à aller traiter des objets qui étaient dans cette tranche d'altitude. Oui. Mais néanmoins, 20 km, ça appartient à la souveraineté de l'espace aérien des Américains qui peuvent donc y faire ce qu'ils veulent. Comme ça, par exemple l'abattre.
L'espace aérien d'un pays s'arrête à 20 km au-dessus du sol?
Non, l'espace aérien d'un pays aujourd'hui, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on peut opérer entre 0 et 15, c'est là où se déroule l'activité aérienne, donc c'est naturel, on est prêt, on a les armements. Oui. Ensuite, au-dessus de 100 km, c'est l'espace, il n'y a plus de règles. Et entre les deux, il y a une zone grise qui est entre 20 km et 100 km, zone grise pour laquelle on ne s'est jamais posé la question parce qu'il ne s'y passait rien.
Ah oui.
Donc là, on se rend compte que la tendance, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs, comme par exemple des missiles hypersoniques, des missiles de longue portée, qui vont utiliser cet espace aérien. Donc la question de la souveraineté se pose dans cet espace. Et les Américains, dans ce cas-là, ont les moyens d'abattre ce ballon. Ils ne le font pas pour une raison qui a été annoncée officiellement. Je pense qu'évidemment, le risque de débris est important parce qu'il fait plusieurs tonnes et ces débris vont tomber sur le territoire des États-Unis. Mais également, abattre un ballon officiellement chinois au-dessus des États-Unis, ça ressemble quand même à un acte de guerre, et je pense que c'est dans l'intérêt de personne de déclencher une guerre avec ce type d'activité.
Mmh. Alors, vous le disiez à l'instant, le contexte est particulier, hein, le contexte diplomatique est particulier. Les Chinois et les Américains sont de plus en plus en opposition. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État américain, se rend dans deux jours en Chine. Hein.
Il y a effectivement plusieurs sujets de tension entre les États-Unis et la Chine. Vous savez que la Chine a décidé, annoncé officiellement, qu'elle voulait détrôner les États-Unis de sa place de première puissance du monde à un horizon qui est fixé, et cet horizon c'est 2049, hein, les 100 ans du Parti communiste chinois. Donc là, il y a une montée en puissance de la Chine qui provoque les États-Unis, et donc on a des sujets de friction. Le premier, par exemple, c'est l'Ukraine, dans laquelle la Chine soutient idéologiquement la Russie, mais également économiquement la Russie, contre donc les intérêts occidentaux. Et puis, évidemment, le sujet fondamental, c'est la tension qui est en train de se créer autour de l'île de Taïwan, que les Chinois ont bien l'intention d'envahir, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, et qui provoque donc des tensions très importantes d'un point de vue militaire dans l'ensemble du monde, parce que c'est un sujet qui concerne l'ensemble du monde, là, l'éventuelle attaque de la Chine sur Taïwan. Mmh.
Donc les Chinois viennent dire, viennent faire un petit salut, c'est un message diplomatique envoyé aux Américains. D'ailleurs, ça arrive souvent, parfois il y a des avions de chasse russes qui frôlent nos frontières.
Alors, en ce qui concerne les démonstrations de puissance, par exemple, entre la Russie et l'OTAN, on va le remettre, par exemple, dans le contexte de la guerre en Ukraine.
Oui.
Jusqu'à présent, toutes les confrontations, aucune confrontation n'a été une véritable provocation. C'est-à-dire que l'ensemble des participants, belligérants directs ou indirects, font très attention à ce qu'il n'y ait pas d'escalade, à ce qu'il n'y ait pas de provocation qui puisse déclencher une attaque, la destruction d'un bateau, la destruction d'un avion. Donc on est toujours à la limite de la provocation de manière à ne pas passer une marche qui serait le déclenchement des hostilités entre, on va dire, globalement, les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc on est vraiment sur une ligne de crête très sensible. Et là, on est un peu dans ce scénario-là, dans lequel les Chinois utilisent cette espèce de zone grise qui est entre 20 km et 100 km pour mener une activité qui est contraire, évidemment, aux intérêts des États-Unis.
Le général Bruno Clermont dans Europe Midi. Merci beaucoup, mon général. Merci pour votre expertise, comme d'habitude, 12h28. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du prix d'une consultation chez le médecin. La Sécurité sociale propose une toute petite augmentation. Les médecins ne sont pas contents. On en parle avec vous et avec Agnès Gianotti, présidente du syndicat MG France. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Consultation des médecins généralistes, le tarif pourrait passer de 25 à 26,50 €. C'est en tout cas la proposition de la Sécurité sociale. Il faut dire que certains médecins demandaient 50 € la consultation, c'est dire la déception. Bonjour Agnès Gianotti.
Oui, bonjour.
Présidente du syndicat MG France. Votre réaction déjà à cette proposition de la Sécurité sociale ?
Oh, bah, c'est une provocation. C'est-à-dire que on n'est pas des mendiants. Alors, 50 €, nous n'avons jamais demandé ça. Nous demandons 30 €.
C'est pour ça que je disais.
Ça fait 7 ans qu'on n'a pas été revalorisé. Donc,
syndicat. Voilà. Bon, vous,
oui,
c'est 30 €.
Mais pas nous. Donc, on part pas sur ces bases-là, en tout cas pour nous.
Oui.
Donc, 30 € ça nous paraissait raisonnable. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas été revalorisé. Il y a 10% d'inflation, comme chacun sait. Et notre profession est pas attractive. Donc, les médecins traitants, on en manque. Les jeunes ont du mal à venir, les plus âgés, on est très âgés à travailler.
Oui.
Donc si on veut que les gens restent et que les gens se retrouvent pas sans médecin traitant, faut rendre la profession attractive. Et là, ils font le contraire, c'est-à-dire qu'ils nous mettent des contraintes et pas de revalorisation. Donc c'est simple, ils vont vider la ville comme ils vont vider l'hôpital.
Oui, oui.
Donc l'État veut se passer de médecin généraliste traitant.
Et pour que la profession de médecin généraliste soit un petit peu plus attractive, il faut augmenter le tarif de la consultation.
Ben, la consultation de base, à minimum. Et nous avions d'autres propositions, parce que la difficulté, c'est de soigner des gens plus âgés et plus malades. Donc, la consultation longue du médecin traitant, le forfait patient médecin traitant quand on prend des gens plus malades et plus âgés, qui sont plus compliqués à prendre en charge, la visite pour aller voir les gens qui peuvent plus se déplacer. Et il n'y a rien de tout ça dans les propositions. Rien du tout.
Oui, oui, oui.
Donc, ça veut dire que les gens vont partir. On va plus s'occuper de la population. Je trouve que l'État abandonne les patients âgés et malades en race campagne.
Oui. Il y a un problème de valeur des choses. Le patient ne paie pas le vrai prix, il n'a pas l'impression de... c'est vrai que quand on va chez le médecin maintenant, franchement, on a l'impression que c'est gratuit, que personne ne paye, que ça tombe du ciel. Il n'y a plus d'échange d'argent. Ça vous manque, ça, ou pas ?
Non, je pense que le problème n'est pas là. Mmh. Le problème, c'est la différence d'attractivité dans différents travaux qu'on peut faire.
Oui.
Il y a 40% des médecins généralistes qui font autre chose que de la médecine générale. Donc, ça va augmenter. Et là, par exemple, l'aide à l'installation des jeunes dans les déserts médicaux, qui était de 50 000 euros, va royalement passer à 6 000 euros.
Oui.
Bon, donc, on fait tout pour que les gens n'aient pas envie de venir. Et nous proposer cette augmentation de 1,50 €, c'est presque une insulte. On n'est pas des mendiants. C'est pas ça la question.
Oui, oui.
C'est est-ce qu'on veut soigner la population demain ou est-ce qu'on s'en fiche? Est-ce qu'on veut des plateformes commerciales? Est-ce qu'on imagine la santé comme ça?
Oui, c'est ça. Non, mais parce que la santé, c'est devenu un produit comme un autre. On prend rendez-vous chez l'esthéticienne et chez le médecin. Voilà, c'est à ce niveau-là.
Absolument,
c'est ça.
C'est-à-dire c'est des soins urgents. On va soigner les gens pour un motif, pour une grippe, et tous ceux qui ont vraiment besoin d'un suivi dans la durée, tout le monde s'en fiche. Il y aura plus personne pour les prendre en charge.
Jean-Louis nous appelle de la région de Nord-Pas-de-Calais.
Oui, bonjour.
Vous êtes d'où exactement ?
J'habite à Arras.
Arras, très bien. Bon, vous trouvez, je trouve la consultation de 25 € à 50, vous trouvez que c'est louable et logique. Vous êtes prêt à payer 50 € la consultation ?
Alors, je pense que c'est une demande symbolique, mais je rejoins tout à fait les propos de Madame la Présidente que je salue. Je ne suis pas médecin, je vous rassure tout de suite. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit à juste titre Madame, c'est que ça ne donne plus l'envie, je pense, à un praticien de faire ses études. Ce praticien qui est, faut rappeler une chose, parce que je discute une fois par an avec mon médecin généraliste. Le médecin généraliste, c'est une spécialité comme la cardio, comme la dermato. Et ces personnes-là, le médecin généraliste n'est pas du tout à une rémunération décente. Quand j'étais chef d'entreprise, quand je faisais appel à un dépannage de technicien, je payais entre 150 et 180 € de l'heure pour un dépannage, certes utile, nécessaire. Aujourd'hui, un médecin qui voit un quart d'heure chaque patient, il touche 100 € de l'heure. Alors des gens pourraient peut-être trouver ça trop par rapport à d'autres salaires beaucoup plus bas, je le conçois très bien, mais le médecin généraliste, il en a la vie presque d'une personne.
Bien sûr qu'il
écoute,
a la vie d'une personne.
Il analyse. Et il est depuis une quinzaine d'années le référent qui orientera après sur l'hyperspécialité que sont tous ceux qu'on peut citer. Donc il a son rôle à jouer, il est énorme. Et je pense, l'autre fois il m'a dit, on a été augmenté pendant quelques mois pour nos déplacements de 4 centimes. 4 centimes d'euros pour un déplacement en plus. Enfin, c'est se moquer du monde. Et effectivement, l'État ne donne pas l'impression de vouloir garder sa médecine. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est nécessaire.
Vous pensez que ça vaut combien, une consultation chez le médecin ? Vous allez voir un médecin généraliste, vous avez un petit pépin de santé ou une question qui vous taraude. Ça vaut combien ? Et on reste 20 minutes.
Moi, j'estime que 35-40 € ne serait pas du vol.
Ouais.
C'est 10 ans d'études, c'est une responsabilité énorme. Un technicien qui fait une erreur sur une petite machine, c'est pas grave, on remplace la pièce, on remplace le circuit imprimé. Un médecin, il peut pas se tromper. Donc, il écoute. Il est quand même... Quelqu'un qui rentre avec un mal au ventre, ça peut être 36 000 raisons. Et il a besoin de cette écoute, il a besoin de son temps. Alors après, il risque de devoir faire beaucoup d'actes pour être rémunéré à peu près correctement, ce qui n'est pas le but, et je pense que ce n'est pas la majorité des praticiens qui agissent comme ça.
Non,
il y a vraiment un problème. Et puis, ça fait 20 ans que la médecine n'est pas gérée correctement par les politiques. Ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a une courbe de vieillissement des médecins qui arrive. Et on aurait dû prévoir depuis longtemps l'augmentation du numerus clausus. Et aujourd'hui, c'est la panique et on n'a rien prévu. Voilà, bon, c'est dommage. Je trouve qu'il est normal. Et 1,50 €, comme me dit Madame la Présidente, c'est une provocation, c'est clair. Enfin, faut pas exagérer. Ils ont leur secrète.
Oui.
Pardon.
Non, mais je vous en prie. Oui. Agnès Gianotti, comment on en est arrivé là ? C'est pas du jour au lendemain. Pourquoi la profession est devenue moins attractive, la profession de médecin généraliste, alors que c'est une belle profession ? Avant, on disait médecin de famille.
Comment on en a toujours un peu été là, c'est-à-dire c'est la logique hospitalière hyper spécialisée. Et vraiment merci monsieur pour vos propos avant, parce que vous avez absolument compris ce qu'est l'essence de notre métier, c'est-à-dire la prise en charge globale du patient. Et donc effectivement, il y a des choses sur lesquelles on doit insister. Les consultations qui étaient à 15 minutes, maintenant elles sont plus à 15 minutes parce que les gens sont devenus beaucoup plus malades et beaucoup plus avec des pathologies chroniques. Donc c'est bien ce côté-là qu'il faut augmenter et pas forcément au niveau de la consultation. Le forfait patient médecin traitant que le patient ne voit pas, mais qui est l'engagement à suivre dans la durée des patients. C'est ça qu'il faut rémunérer. C'est-à-dire, on s'engage à ne pas vous laisser tomber et pas à faire du one shot, c'est-à-dire du coup par coup. On va vous accompagner tout au long de votre vie et des soucis que vous allez pouvoir avoir. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser. Et la visite, quand les gens peuvent plus se déplacer du tout, qui est à 30 euros, c'est ridicule. On passe beaucoup de temps quand on va en visite, parce que les visites de confort n'existent plus pour le médecin traitant.
Oui.
C'est que des visites compliquées avec des gens compliqués.
Des visites compliquées. Est-ce que le médecin se déplace encore à domicile ?
Eh bien, il y a une double conjonction.
J'entends le médecin traitant, le médecin traitant, parce qu'il y a,
oui,
y a SOS médecin, bon, bien sûr, mais
oui,
mais
non,
le
je parle du médecin traitant.
Ouais.
Ça devient d'autant plus compliqué qu'on a une pression. C'est-à-dire, moi, le matin, quand j'arrive en consultation, j'ai 15 personnes devant ma porte. Donc, soit je fais une visite, soit je vois les 15 personnes. Donc, voilà. Et à 30 euros, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut absolument que la visite soit revalorisée, parce qu'on perd de l'argent. C'est du bénévolat d'aller en visite maintenant.
Ouais.
Or, c'est quelque chose de primordial pour les gens qui peuvent pas se déplacer.
Merci Jean-Louis. Agnès Gianotti, toujours avec nous. On est avec Patricia, qui nous appelle d'Aix-en-Provence, gérante d'un festival de chansons françaises. Donc, formidable, Patricia. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous pensez que les consultations à 25 euros sont une des causes du manque de médecins en France, hein, vous ?
Oui, c'est une des causes.
Oui.
Je pense qu'effectivement, le métier n'est pas du tout valorisé. C'est évident que moi, je suis à Aix-en-Provence, j'arrive encore à trouver des médecins. Mais par exemple, ma maman qui est dans le Lot, dans un petit village, son médecin a pris sa retraite, elle n'a plus de médecin du tout. Et comment voulez-vous qu'un médecin se déplace, surtout dans les campagnes ? Il y a tellement de kilomètres à faire d'un patient à un autre, le médecin, il ne peut plus prendre tout ce temps. Parce que comme disait madame tout à l'heure, quand elle a 15 patients dans son cabinet, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Prendre 15 patients ou un qui se trouve à 10 kilomètres ? Eh bien, elle prendra les 15 patients.
Bah oui,
donc
bien sûr.
Ça devient vraiment très très compliqué. C'est anormal, on est en train de tuer la médecine en France. Il y a 25, 30, 35 ans, le médecin de famille, il venait, il restait trois quarts d'heure, une heure. Il comprenait bien le malade, il l'accompagnait. Et quelquefois, il faut l'écouter aussi, le malade, pour comprendre entre les lignes ce qu'il a.
Oui.
Et quand un médecin a 25 euros, ben évidemment, il va passer 10 minutes et il va en faire toute la journée, peut-être 20, 30, je ne sais pas. Mais il ne fait pas convenablement son métier et je ne pense pas que c'est ça qu'il veuille faire.
Les médecins
moi,
travaillent
beaucoup. Ouais. Moi, je serais prête à payer 35-40 euros.
35-40 euros.
Moi, je peux payer 35-40 euros pour avoir une médecine compétente, un médecin à l'écoute. Mais bien sûr, ça n'a pas de prix, un médecin à l'écoute.
Ouais,
c'est plus important.
Ça, je
ne suis pas un plombier, un électricien ou un autre corps de métier n'est pas important.
Ouais.
Mais là, c'est de la vie humaine qu'on parle.
Agnès Gianotti.
On ne parle pas d'une machine à laver.
Non. Présidente de MG France, premier syndicat des médecins généralistes. Chaque visite est importante chez le médecin. Il y a des patients qui abusent un peu ou pas ?
Oh non, ça
non.
C'est fini.
Ça c'est terminé.
De toute façon, chez le médecin traitant, nous on régule.
Ouais.
Alors, c'est aussi pour ça que dans le système de santé, on n'a pas que des amis, on va dire. Parce qu'on régule la demande pour faire ce qui est utile. Et le one-shot qui répond à la demande et non pas aux besoins de santé, nous, on fait le contraire, c'est-à-dire on répond aux besoins. On va voir ceux qui ont besoin, on leur dit de revenir tous les 4 mois ou tous les 6 mois ou tous les 3 mois, suivant leur état de santé. Enfin, on organise le suivi de telle manière que ça réponde à la situation de santé de la personne qu'on a devant nous. Mais ce qu'il y a de pire encore dans la séance de négociation, c'est que non seulement ils nous injurient presque avec ce 1,50 €, mais ce qui apparaît, c'est qu'ils nous mettent que des contraintes. C'est-à-dire que pour avoir droit à d'éventuelles autres majorations qui ne correspondent pas à nos demandes, qui ne correspondent pas au fait de soigner une population vieillissante et malade, il faut cocher des cases, travailler le soir, la nuit, le dimanche. Donc vous chargez la barque d'une profession épuisée, vous dégoûtez les gens de venir, vous encouragez les gens à partir, mais il n'y aura plus personne demain. C'est terrifiant cette absence de vue au long cours.
Et les Français sont prêts à payer selon vous parce qu'il y a un moment, quand on dit 30 euros, ça veut dire que ça s'est remboursé par la Sécu.
Oui, la Sécu ou les mutuelles pour ceux qui en ont.
Par la collectivité, quoi.
Oui, mais c'est normal. L'OMS dit que pour n'importe quel système de santé dans le monde, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait 1% du PIB sur les soins primaires. On en est très, très loin. Les soins primaires n'ont jamais été développés en France et c'est ça qu'on paye aussi.
Merci beaucoup Agnès Gianotti, merci beaucoup d'avoir été avec nous, présidente de MG France, premier syndicat des médecins généralistes. On était également avec Patricia qui nous a appelé d'Aix-en-Provence et Jean-Louis d'Arras. 12h45, restez avec nous dans un instant, c'est le vendredi thématique sur Europe 1 dans tous les rendez-vous d'infos comme Europe Midi, la France des Lumières dans la pénombre. On en parle avec l'invité d'Europe Midi, Bruno Macquart, président d'Universcience. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
La désinformation des jeunes dans le domaine de la science, ça se passe notamment sur les réseaux sociaux. C'est le thème de notre vendredi thématique sur Europe 1. On en a parlé ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko et on continue à en parler dans Europe Midi, évidemment. On est avec Bruno Macquart. Bonjour Bruno Macquart.
Bonjour à vous et à celles et ceux qui nous écoutent.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Président d'Univers Sciences qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci d'être avec nous. Alors, les chiffres sont assez affolants. Ce qui est à l'origine de ce thème, bon, vous allez nous dire si vous êtes affolé ou pas. Ce qui est à l'origine de ce thème, c'est une enquête de la Fondation Jean Jaurès. On apprend notamment que 16% des jeunes de 18 à 24 ans estiment qu'il est possible que la Terre soit plate et non pas ronde. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites ? Vous vous étouffez ? Quelle est votre réaction ?
Alors ma réaction, c'est que l'étude de la Fondation Jean Jaurès, elle a le mérite de mettre le doigt sur un sujet d'importance majeure, qui est le développement de la culture scientifique dans notre pays, et en particulier chez les jeunes. Ouais. Alors, pourquoi c'est un enjeu majeur pour l'avenir ? Parce qu'on entre dans un monde en transition, et que finalement, la science, c'est la culture du 21e siècle. Alors, on ne peut pas le traiter sous un seul angle. Il faut aussi garder en tête, par exemple, que les jeunes, ce sont eux qui, en grand nombre, descendent dans la rue pour soutenir les alertes des scientifiques sur le climat. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent écoutez ce que dit la science. Il faut qu'on change nos façons de vivre parce que la science nous dit que sinon ça n'est pas tenable sur le long terme. Et puis nous, à Univers Sciences, nous avons lancé une enquête assez large sur l'ensemble de la population qu'on appelle le baromètre de l'esprit critique. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit des choses intéressantes sur les jeunes. Ben, d'abord que 84% sont d'accord, voire tout à fait d'accord avec l'idée que la science permet d'améliorer les conditions de vie. Vous en avez à peu près autant, 85% des jeunes, des moins de 24 ans, qui disent que la science permet de développer des nouvelles technologies utiles à tous, et vous en avez même 90%, c'est-à-dire 9 sur 10, une écrasante majorité, qui sont d'accord avec le fait que la science permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc les choses sont peut-être à compléter par d'autres enquêtes, et oui. Puis c'était une photographie à un moment donné, ça peut changer. Et puis moi, ce qui m'importe, je reviens à votre question,
oui.
Ce qui m'importe, c'est mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Alors, il y a
trois choses que je voudrais dire qui sont assez simples. D'abord, il faut initier les enfants dès leur plus jeune âge et puis il faut emmener les enfants dans les centres et les musées de sciences. Vous en avez partout en France. Vous avez cité le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, mais moi je vais vous citer l'Arche des Métiers au Chélard en Ardèche, je vais vous citer le Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq, ou bien encore Plumeur-Baudou, la Cité des Télécoms, dans laquelle d'ailleurs le 13 février ouvre une exposition très importante qui s'appelle Esprit critique, est une exposition que nous avons produite avec nos collègues de Toulouse et de Strasbourg, qui aide les gens à repérer dans le monde complexe dans lequel on est, dans le monde saturé d'informations, qui aide les gens à comprendre comment raisonner de manière autonome. Parce que c'est ça qui compte aujourd'hui.
Où est-ce qu'il faut aller quand on est jeune ou pas d'ailleurs, et qu'on veut rechercher une information J'ai connu l'époque où on allait dans l'encyclopédie Universalis, ou dans le Larousse encyclopédique, on feuillette les pages, et il y avait, j'allais dire, une vérité. Aujourd'hui, on va sur Google, ou sur un moteur de recherche. Et puis, il y en a beaucoup qui vont sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou Twitter, faire « Est-ce que la Terre est plate ?» Et là, on trouve de tout et beaucoup de n'importe quoi aussi. Comment on fait et quel est le travail à effectuer pour mettre un peu d'ordre dans cela ?
Alors, vous avez entièrement raison. On sort d'un monde dans lequel le savoir était dans les livres. Et les livres étaient dans les bibliothèques.
Oui.
Aujourd'hui, le monde dans lequel on est baigné d'informations. Tout le monde a accès à tout à tout moment très facilement. Hein. Les smartphones, ce sont les bibliothèques de poche, finalement. Et puis, oui. Ça a eu un effet aussi, c'est que tout le monde peut s'exprimer, ce qui est un effet positif, mais que du coup, la parole des experts est contestée, remise en cause et comparée à d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut investir ces nouveaux lieux. De, de sociabilité, parce que vous avez à juste titre souligné le fait que c'est là que les jeunes vont prioritairement pour s'informer. Eh ben, il faut qu'on y aille aussi.
Ouais.
Je vais citer ce que font nos collègues de Nouvelle-Aquitaine, qui portent un nouveau média qui s'appelle Curieux. Curieux, c'est un... Si vous ne connaissez pas, il faut absolument y aller. Sur TikTok, par exemple, c'est 1,8 million d'abonnés. Vous m'avez bien entendu, quasiment 2 millions d'abonnés. Ce qui en fait un des plus grands, un des plus importants comptes d'informations françaises sur ce réseau. Et puis, vous avez ce que produit mon établissement, qu'on appelle Le Blob, qui est sur YouTube, par exemple.
Oui.
On a près de 4 millions de vues par an. Il faut investir ces nouveaux lieux et y porter une parole selon des formats adaptés aux nouveaux usages, adaptés aux nouvelles générations. Il faut parler aux nouvelles générations là où elles sont. Et puis
oui.
Il faut leur dire, ben, venez aussi dans nos établissements, parce que non seulement vous avez accès à du savoir, mais aussi vous avez accès à des gens. Le Palais de la Découverte, il a inventé une nouvelle manière de faire musée, si je puis dire, parce que vous rencontrez des gens avec lesquels vous pouvez parler. Il faut échanger. Je pense que c'est ça, c'est l'échange qui est important dans le monde nouveau dans lequel on entre, qui est
bien sûr
passionnant.
Mais qui est passionnant et on ne reviendra jamais en arrière. Donc ça, faut oublier ceux qui ont cette idée-là doivent bien comprendre que ça ne se produira jamais. Ce que vous disiez était intéressant. Hein. C'est vrai que quand on regarde un fil Twitter ou un fil de n'importe quel réseau social, la parole d'un scientifique est au même niveau qu'un quidam. C'est-à-dire que si je mets une information, ça sera lu avec autant peut-être d'intérêt que celle d'un scientifique. On regarde, on se balade. On parle d'ailleurs de vérités alternatives aujourd'hui. On a le sentiment qu'il y a plusieurs vérités. Quel est votre point de vue là-dessus, sur les vérités alternatives ?
Notre point de vue, c'est qu'il faut faire connaître et pratiquer la démarche scientifique. Pourquoi ? Pas simplement pour comprendre la science, encore que c'est important de savoir ce qu'on sait et comment on le sait. Pourquoi est-ce qu'on sait ce qu'on sait, finalement ? Pourquoi est-ce qu'on sait que la Terre, elle n'est pas ronde ? Elle n'est pas plate, pardon, elle est ronde. Eh bien, aujourd'hui, alors on ne peut plus prendre le Concorde, parce qu'à l'époque, il suffisait de prendre le Concorde pour voir que la Terre était sphérique.
Oui.
Mais aujourd'hui, les éclipses de Lune permettent de le faire. Il y a toute une série de choses auxquelles il faut qu'on entraîne les jeunes, mais aussi les moins jeunes, c'est-à-dire à développer l'esprit critique, à repérer les biais cognitifs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on apprend à se faire une opinion ? Par exemple, dans notre baromètre de l'esprit critique, on a demandé aux gens, est-ce que vous vous méfiez de vos propres intuitions ? À 20%, ils disent oui, et à 80%, ils disent non. Alors que c'est un des premiers biais cognitifs, c'est un des premiers pièges dans lequel on tombe tous, vous et moi, assez facilement, qui est de penser ce qui nous vient à l'idée spontanément, alors que finalement, des fois, c'est plus compliqué que ça. Il y a un autre biais important qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est le biais de popularité. Je crois plus facilement celui qui a beaucoup de followers, par exemple, parce que je pense qu'il est plus fiable que les autres. Eh bien, en fait, ça n'est pas exactement ça qu'il faut faire. Il faut apprendre que là où il y a du monde, c'est pas forcément là que s'entendent les choses les plus justes. Il faut qu'on entraîne.
Ouais, ouais.
Apprendre à apprendre et puis apprendre à se repérer, apprendre à avoir du plaisir aussi et à débusquer, à entraîner notre raison. C'est une nouvelle gymnastique de l'esprit que nous devons apprendre tous ensemble dans le monde nouveau dans lequel on est, qui est aussi plein de potentialités.
Merci beaucoup Bruno Macquart, merci beaucoup, c'est passionnant. 12h56, merci à tous d'avoir appelé le 39-21. On est bien ensemble dans Europe Midi dans un instant. C'est La France Bouge avec Elisabeth Assayac. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Romain.
On parle de quoi aujourd'hui ?
On va parler des pâtes.
Ah,
les pâtes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Les négociations commerciales sont en cours et on va en parler avec le directeur général de Panzani, entreprise 100% française, deux usines en France.
Spécialiste, s'il en est, oui.
Et spécialiste des pâtes, évidemment. On vous retrouve lundi, Romain.
Lundi, pour la nouvelle Europe Midi à lundi. Bonne émission.
Merci.